Alors bonjour à tous, on va commencer cette première séance de cette journée d'études Raison d'agir. Alors nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui, ce matin, William Berthomière et Sébastien Chauvin. Alors, je vais les présenter rapidement avant de leur donner la parole. Alors William Berthomière qui est à ma droite, tout de suite à ma droite, est chercheur au CNRS et il est l'ancien directeur du laboratoire Migrinter, laboratoire de Poitiers, et co-directeur de la revue européenne des migrations internationales. Ses recherches portent sur l'émergence de nouvelles migrations en Israël, sur les travailleurs étrangers notamment. Il porte sur les réseaux sociaux et les territorialités migrantes, sur les concepts de diaspora et de territoire, sur la question des pratiques et représentations de l'espace dans le contexte des systèmes de migration juifs, et plus globalement sur la mondialisation des migrations internationales et l'évolution des notions dévolues à ce champ de recherche. Alors je peux citer deux livres. Alors un premier, l'ouvrage le plus récent, je crois, mais tu me corrigeras si je me trompe, Dynamique de population, migration et frontières sociales en Israël, aux éditions du CNRS.
Il est tellement récent qu'il n'est pas sorti encore.
D'accord, donc j'anticipe. Et donc un second ouvrage en coordination avec Christine Chivallon, je ne sais pas si je le prononce bien. Les diasporas dans le monde contemporain, qui a été publié donc en 2006 aux éditions Cartala. Ensuite, donc, nous écouterons Sébastien Chauvin, qui est sociologue, professeur assistant ou maître de conférence, pour le dire comme on le dit ici, à l'université d'Amsterdam. Il a donc réalisé sa thèse aux États-Unis. Ses travaux portent sur le travail journalier et l'intérim industriel chez les immigrés sans papier, sur les mouvements de travailleurs précaires outre-Atlantique et sur l'intersection des questions de race, de classe et de sexualité. Cet ensemble de questionnements, il les a ensuite reportés sur le cas européen. Et on aura d'ailleurs l'occasion de discuter de... alors ce matin, je pense que Sébastien Chauvin va nous parler des États-Unis, mais donc on retrouvera Sébastien cet après-midi, donc dans la, à 14h, je crois. Est-ce que je me trompe? À 14h, donc... Oui, 14h. Bon, en tout cas, en début d'après-midi, si c'est 14h. Voilà, 14h pour discuter donc de ces questions, mais cette fois en France notamment. Voilà, donc je vais laisser la parole à... j'ai quand même vous présenté les deux ouvrages de Sébastien Chauvin. Donc un premier ouvrage publié en 2010 intitulé « Les agences de la précarité, journalier à Chicago ». Au Seuil, donc publié en 2010, et puis un ouvrage collectif qui, cette fois, fait beaucoup plus référence à ce qui sera dit cet après-midi, donc un ouvrage collectif avec Pierre Baron, Anne Bory, Sébastien Chauvin et Nicolas Jounin, ainsi que Lucie Tourette, intitulé « On bosse ici, on reste ici, la grève des sans-papiers, une aventure inédite » aux éditions La Découverte, qui est sortie hier, mais que vous trouvez déjà sur la table des ouvrages qui se trouvent derrière vous. Bien, William, je te laisse la parole.
Et merci beaucoup et bonjour à tous et merci pour cette invitation. Donc, dans le cadre de cette présentation sur les dynamiques de la mondialisation, je vais essayer donc d'avoir une contribution à la connaissance de ces dynamiques au prisme des migrations internationales. Donc, comme vous l'avez compris, je suis géographe de formation, donc j'ai une approche spatialisée, donc ce qui va m'amener à utiliser de façon assez intense PowerPoint et à vous infliger quelques cartes et quelques chiffres. Premièrement, déjà ça. Voilà. Donc, la mondialisation, quand on l'aborde en termes de géographie, des migrations et internationales, c'est avant tout, on pourrait la définir comme un système migratoire construit sur des déséquilibres, hein, puisqu'on voit bien, notamment par l'alternance des couleurs et des circulations et des flux qui sont positionnés à travers les différentes flèches sur cette carte, que le monde, en termes de mondialisation migratoire, se construit à travers des systèmes ou des sous-systèmes migratoires où, effectivement, vous pouvez voir apparaître des pays d'immigration, hein, qui sont ici mentionnés par les couleurs chaudes, hein, orange et, et jaune, et les pays d'émigration qui sont, eux, positionnés en vert sur la carte. Donc vous voyez que, d'une certaine manière, hein, le monde, comme on dit, bouge, et bouge à travers un ensemble d'équilibres, de déséquilibres à l'échelle de la planète, qui amène certaines personnes à faire le choix donc, de partir à des milliers de kilomètres de leur pays d'origine ou leur pays de naissance. Donc globalement, pour le géographe que je suis, ma lecture de la mondialisation à travers la migration, c'est cette carte qui rassemble l'ensemble des dynamiques. Alors, vous voyez comme les différentes petites flèches ici hein, vous signalent les pôles importants de départ. Hein, évidemment, il y a des grands pôles d'immigration, mais il y a également des grands pôles d'émigration. Et vous pouvez le voir dans les débats actuels au niveau des différents acteurs politiques européens, où on a tendance de plus en plus à cibler ce contexte migratoire international en définissant ou en ciblant certains États d'origine, certains pays hein, qui vont justement, qui ont de sa manière, on peut le définir ainsi, à une sorte de stigmatisation de certains États en termes d'États qui sont de potentielles sources d'émigration importantes vers l'Europe. Donc globalement, notre activité de recherche au sein du laboratoire Migrinter, mais également dans les autres laboratoires qui s'intéressent aux questions de migration, s'intéressent à mieux comprendre ce dispositif-là et à travers différentes approches de terrain, et notamment différentes approches de mesure. Globalement, cette carte sous-entend, hein, quand on fait la somme de ces mobilités, hein, avec toute la grande difficulté évidemment qu'on a à mesurer les migrations, hein, si on doit le faire, mais dans cette mesure, aujourd'hui, on estime à peu près à 220 millions le nombre de migrants internationaux, hein, défini dans le cadre des Nations Unies, hein, c'est-à-dire que c'est la personne qui va quitter son pays pour une durée supérieure à une année, avec toute la difficulté, évidemment, comme je peux vous l'indiquer, de mesure. Hein, si vous partez demain, je ne sais pas moi, aux États-Unis avec un billet de touriste et que vous décidez d'y rester 3 ans, la mesure devient complexe pour un État comme la France. Certains États, eux, évidemment, mesurent la mobilité de façon plus fine. Le point important en termes de macro lecture des migrations internationales, c'est la part des migrants internationaux dans la population mondiale. Hein. Vous voyez que si on prend depuis les années 60, on voit qu'il y a, on peut dire, hein, une assez grande stabilité hein, du poids des migrations internationales dans la population mondiale, hein, puisqu'on atteint aujourd'hui 3% de la population mondiale qui est en mobilité. Donc vous voyez qu'encore une fois, dans ce cadre de la mondialisation, il y a une sorte de décalage assez fort entre le discours politique, hein, qui indique, lui, une grande mobilité des populations, etc. etc. Je ne vais pas vous redistribuer le discours classique, mais vous voyez qu'en termes de flux et de mesure des flux, on est dans une certaine stabilité et seulement une part infime de la population mondiale est en mobilité. Un autre point sur lequel il faut insister aussi, hein, qui est en termes de questions sociales, ce sont les migrations qu'on a tendance à oublier, hein, sont les migrations internes. Là, on parle de migration internationale, donc changement d'État, on passe une frontière internationale, mais il ne faut pas oublier que la population mondiale est également très mobile à travers les déplacés internes, hein, donc il n'y a pas de franchissement de frontières internationales, on pense à des pays comme la Colombie notamment ou à l'Irak aujourd'hui, on estime un peu plus de 700 millions le nombre de migrants internes, hein, à l'échelle de la Chine. Quand on raisonne à l'échelle de la France, de l'Europe, en disant on a migration internationale entre le sud de l'Europe et le nord de l'Europe, si on prend la Chine, on est dans le même état, mais on a la même et même des distances beaucoup plus grandes parcourues. Un point sur lequel je voudrais insister, c'est sur ce petit tableau de synthèse des 4 grands courants de migrants internationaux. On a évidemment une lecture un peu égocentrée des migrations internationales, hein, dans la mesure où on pense que tout le Sud vient vers le Nord, hein, tout le Sud va des pays riches des pays pauvres vers les pays riches pour aller très vite, mais on oublie de dire qu'il y a un flux équivalent, hein, de migration Sud-Sud. Et que de grands États des pays du Sud accueillent aujourd'hui une large part, hein, comme on pourrait reprendre l'expression européenne, une part du fardeau, hein, est portée par les pays du Sud eux-mêmes. Donc c'est souvent une dynamique qu'on a tendance à oublier. Notamment des grands acteurs, hein, des politiques d'accueil, on pense à l'Afrique du Sud, hein, qui aujourd'hui... Pour passer un peu plus vite sur les catégories, quand on réfléchit en termes de politique d'asile, l'Afrique du Sud, elle seule, aujourd'hui, accueille un nombre de demandeurs d'asile aussi important que l'Europe des 27. Donc on a des équilibres qu'il ne faut pas oublier. Un équilibre intéressant à voir, c'est l'immigration nord-sud. hein, 14 millions seulement de migrations nord-sud. C'est peut-être aussi pour ça que les pays du Nord ont du mal à comprendre ce que c'est que la migration, hein, parce que la population nord-européenne est une population plutôt sédentaire et non mobile et fait de la mobilité une sorte de peur dans certains discours. La carte que je vous ai montrée précédemment, elle est effectivement complexe à décrypter. On l'a fait à des échelles fines. Là, je vous parle à une échelle macro. Mais dans les déterminants des migrations et ce qui fait qu'il y a cette mondialisation migratoire, on ne peut pas ne pas corréler cette carte. On ne peut pas ne pas mettre ces deux cartes l'une à côté de l'autre. Hein. C'est la carte de la balance migratoire. Hein. Vous voyez bien que la balance migratoire, hein, c'est le solde entre les entrées et les sorties, hein, d'un pays, hein, votre émigration et votre immigration. Vous voyez bien que si on prend la carte de la balance migratoire, là avec des données stabilisées, puisque j'ai pris des données qui sont de milieu des années 2000, donc on est sûr à peu près des données. Vous voyez bien qu'en jaune sont les pays d'immigration, hein, qui ont un solde migratoire positif, qui reçoivent plus d'immigrants qu'ils n'émettent d'émigrants. Vous voyez bien qu'il y a encore une lecture sud-nord, elle existe. Et si vous mettez à côté, pour la même époque, la carte des PIB par habitant, vous voyez qu'il y a évidemment les déterminants de la migration. Il y a un discours aujourd'hui un petit peu... Dans le milieu académique, un petit peu intellectualisant de certaine manière, qui a tendance à dire l'immigration, ce n'est pas seulement un départ vers les pays les plus riches. Structurellement, c'en est avant tout un. On part avant tout. Le faire le choix de quitter sa famille et de partir des années entières, des dizaines d'années, hein, pour certaines femmes. Hein. Moi, j'ai interrogé des femmes au Liban qui ont fait 20 ans de migration, des retours tous les 3-4 ans dans le pays d'origine. On part avant tout pour gagner de l'argent et pour assurer un avenir meilleur à sa famille. Alors effectivement, la mobilité est plus complexe, il y a des choix de mobilité. Aujourd'hui, on travaille beaucoup sur la notion de projet migratoire, de savoir migratoire, d'expérience migratoire. C'est vrai, on arrive à mieux saisir ces problématiques-là, mais il ne faut pas gommer l'idée qu'avant tout, on part parce qu'il y a un net déséquilibre des richesses à l'échelle de la planète. De certaine manière, ça a structuré le débat et notamment les États du Nord utilisent beaucoup cette question-là pour la réintroduire dans ce fameux débat « partir pour mieux rester ». Hein, c'est une expression qui a été utilisée fréquemment. « Partir pour mieux rester ». Et donc, c'est une réflexion qui est articulée sur la relation migration-développement avant tout. Hein. Les États du Nord inscrivent un peu une politique sociale des migrations dans cette articulation migration-développement. C'est-à-dire que les pays du Nord aideraient les pays du Sud par leur politique migratoire à mieux développer les pays d'origine, avec l'idée sous-jacente pour une partie des acteurs politiques, c'est que plus les pays se développeraient au Sud, moins les populations auraient tendance à venir vers le Nord. Bon, on va voir que c'est plus complexe que ça, mais c'est un discours qui a été fréquemment mobilisé. Alors, il a été beaucoup étudié, hein, ce discours migration-développement. C'est même, de certaine manière, c'est ce qui fait le gros de la recherche aujourd'hui, hein, sur les migrations. Un point fondamental de la recherche, c'est ce qu'on appelle la question des remises. Hein. Vous connaissez certainement cette question si vous vous intéressez aux questions de migration. C'est l'argent qui est renvoyé par les migrants dans les pays d'origine et dans leurs familles. Hein. C'est le but de la migration, hein, de partir pour assurer un avenir meilleur à sa famille ou à sa communauté, sa collectivité, appelez-le comme vous le voulez. Mais donc, on s'intéresse énormément à cette manne financière qui part des pays développés vers les pays d'origine. Pour aller très vite là-dessus, aujourd'hui, on est sur des remises qui sont de l'ordre de 320 milliards hein, de dollars par an, et dont on estime à 240 milliards de dollars les transferts financiers vers les pays en développement. Le point important, et je ne vais pas rentrer dans la finesse de lecture de ces questions des remises, le point important, à mon avis, qu'il faut avoir en tête dans ce discours hein, sur migration-développement, quel est le jeu des pays du Nord dans ce discours-là ? On oublie souvent de dire qu'en fait, quand on réinscrit les remises à l'échelle internationale et de la politique internationale des grands États, c'est largement supérieur à l'aide publique au développement. C'est-à-dire que l'aide publique au développement, c'est aujourd'hui 100 milliards de dollars par an, et les transferts migratoires, c'est 240 milliards de dollars. Donc en fait, le développement des pays du Sud, de cette manière, si on veut aller un peu rapidement dans l'exposé, le développement des pays du Sud vient avant tout des migrants eux-mêmes. Hein, et ce qui est intéressant aujourd'hui de voir, c'est que je vois que je sais qu'il y a des économistes dans la salle, ils pourront peut-être corriger un peu mon propos un peu rapide. Mais ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que les remises aujourd'hui en termes de volume dépassent les investissements directs étrangers dans les pays en développement. Donc ça, c'est aussi intéressant à voir, hein, c'est que cette mondialisation des migrations, d'un point de vue en termes de lecture macroéconomique, nous permet de remettre aussi à des échelles intéressantes. Ces questions-là. Partir pour mieux rester, si on revient sur cette articulation migration-développement, qu'est-ce que la recherche nous dit aujourd'hui dans cette question de quels sont les effets de la mondialisation et de la circulation transnationale de migrants, notamment des pays du Sud. De ces déséquilibres nord-sud, il ressort que on apprend clairement dans les lectures qu'on peut faire, qu'on casse une image. Ce n'est pas les pays les plus pauvres qui affichent les taux d'émigration les plus élevés. Au contraire, hein, c'est souvent les pays les plus pauvres qui ont des taux d'émigration les plus faibles. Simplement parce que la migration a un coût, parce que la migration nécessite d'être capable de mobiliser de différents réseaux sociaux, etc. Il y a besoin d'un niveau minimum d'éducation, d'accès à l'éducation pour migrer. Et donc, ce qui casse un peu une idée préconçue, hein, c'est que les plus pauvres viendraient vers les pays les plus riches. Par contre, ce qui est vrai, c'est que les pays les plus pauvres ont les taux d'émigration de qualifiés les plus élevés. Et ça, c'est un point, à mon avis, important, notamment en termes de professionnels de santé. Hein, les pays les plus pauvres qui forment des qualifiés, des santé, voient notamment, pour être parlé très clairement, les médecins formés dans les pays les plus pauvres ont tendance à quitter les pays les plus pauvres pour aller travailler dans d'autres pays à proximité ou en Europe. Hein, vous avez tout le débat aujourd'hui sur les PADU, hein, ce qu'on appelle les PADU, ces médecins étrangers qui viennent travailler dans les hôpitaux européens, notamment français. Hein, et qui sont payés différemment, qui n'ont pas les mêmes droits dans les hôpitaux, etc. etc. Ça, c'est intéressant à observer. Et notamment, ça amène les pays du Sud à devoir pratiquer des politiques de substitution. C'est-à-dire que les professionnels de santé qualifiés sont remplacés par des professionnels de santé moins qualifiés. Notamment, dans certains pays, on voit que ce sont les infirmières qui vont devoir jouer le rôle du médecin, etc., pour pouvoir pallier à ce déficit, etc. Donc, ça a des effets en chaîne intéressants. Donc, je ne vais pas tous les passer, vous pouvez les lire aussi vite que moi, mais un point intéressant dans cette mondialisation migratoire, c'est que les pays développés, eux, par exemple, par contre, rassemblent la majorité des personnes diplômées. Et les deux tiers de ces diplômés viennent de pays non membres de l'OCDE. Donc, vous voyez bien ce qu'on appelle cette question du brain drain, etc., la fuite des cerveaux, etc. Bon, je passe sur les différents points suivants parce qu'avec PowerPoint, on a tendance un peu à s'allonger. Je ne voudrais pas dépasser mon temps. Mais ce que je vous conseille pour les personnes qui seraient assez intéressées sur ces questions macroéconomiques, plutôt de microéconomie des migrations, c'est de consulter le numéro récent de la revue économique qui a été publié en novembre 2010, notamment qui a été piloté par Mood et El Moub. Qui est un économiste des migrations, un des rares économistes des migrations en France, puisque vous savez que l'économie est une discipline compliquée et qu'elle a du mal à accepter des travaux un peu hors des grands champs de l'économie. Un des points de la mondialisation, à mon avis, qu'il faut mobiliser, c'est je joue d'images un peu opposées, hein, partir pour mieux rester, migration, développement, mais d'une certaine manière, les pays du Nord vont développer tout un discours sur le co-développement, sur la coopération décentralisée, vous connaissez tous ces termes-là, développement concerté, etc. Mais de certaine manière, en même temps, il y a un peu une sorte de schizophrénie parce qu'il y a une politique d'assignation à résidence, hein, des populations du Sud, puisqu'il y a c'est une autre forme de la mondialisation, hein, puisque à travers ces cartes qui ont été notamment faites par Philippe Rekasevich et Olivier Clochard. Olivier Clochard est membre de Migrinter et Philippe Rekasevich, vous le connaissez, du Monde Diplo. Mais à travers ces cartes, on voit mieux la fermeture de l'Europe. Là, vous avez la cartographie des 250 camps d'étrangers, d'enfermement d'étrangers en Europe, hein, avec les différents statuts de ces différents camps, avec cette grande ligne rouge qui est les limites de Schengen. Et puis, vous voyez apparaître sur ces cartes également ces noms comme ERA, à proximité du Sahara occidental, ou Hermès, ou Chronos, hein, c'est ces politiques de zone de contrôle de la Méditerranée, notamment avec, avec l'agence européenne Frontex, hein, qui a pour rôle de limiter, de bloquer les circulations sud-nord, notamment toutes les circulations d'embarcations, etc. L'actualité nous le démontre aujourd'hui. Un point également qui a été malgré tout... Là, il y a un doux titre, miroir obscur des politiques migratoires. Hein. Tous les travaux qu'on a pu faire sur les morts aux frontières, hein, puisque cette politique migratoire et de fermeture des frontières nous a permis, avec Olivier Clochard, notamment, vous pouvez retrouver ses cartes dans l'Atlas des migrants en Europe qu'il a pu publier récemment, nous a permis de reprendre toute la carte, de cartographier, hein, tous les morts aux frontières. On estime aujourd'hui à 14 000 morts aux frontières de l'Europe depuis 1988. Hein, avec, vous voyez, là, c'est assez macabre, mais ça va de la noyade au suicide, hein, puisque vous connaissez les difficultés des questions d'enfermement. Alors, je balaye différents sujets. Hein, je pense que je vais dépasser un peu 20 minutes, mais je devrais rester à 25. Un sujet sur lequel on travaille, on a été amené à travailler plus fortement depuis peu de temps. Migrainter donc à Poitiers pilote un programme européen sur les mineurs migrants, hein, financé par la Commission européenne. L'Université de Poitiers va créer à partir de l'année prochaine l'Observatoire européen des mineurs migrants en Europe à Poitiers. Donc piloté par un Migrainter, c'est une question qui a émergé, c'est une question qui a toujours existé d'une certaine manière, et il suffit même de reprendre, vous avez sûrement lu des contes à vos enfants quand vous étiez enfant sur ces jeunes enfants qui partent tout seuls parce que sa famille ne peut plus le garder à la maison, il va travailler, etc. Ces jeunes Irlandais, il y a même un musée récemment qui a été ouvert en Australie sur ces enfants migrants qu'on a fait partir en Australie dans les années 50. Hein. Ça a dû être inauguré, je crois, il y a 15 jours. Eh bien, aujourd'hui, une nouvelle figure, hein, ou les nouveaux visages de la mondialisation migratoire en Europe, c'est d'être confronté plus fortement à la migration des mineurs, ou ce qu'on appelle les mineurs non accompagnés. Il y a différents noms, enfants migrants, etc. Donc, c'est une question importante aujourd'hui. Hein. Alors, pourquoi ces enfants migrent ? Parce que les parents ne peuvent plus migrer, et donc on transfère aux enfants le rôle de migrer pour pouvoir assurer un revenu pour la famille, parce qu'on est en situation de détresse, vos parents ont pu être tués ou disparus dans des conflits, et vous n'avez plus que comme choix de quitter le pays, vous préférez quitter le pays. Donc ça, ce sont différentes images qu'on a aujourd'hui. Alors l'Italie est fortement convoquée une fois de plus dans cette question-là. Là, j'ai mis ces deux photos parce que ça pose une question forte en Europe. C'est le respect des droits européens sur la protection de l'enfance, puisque l'Europe a décidé depuis ces dernières années de pratiquer l'incarcération des mineurs. Donc, j'ai pris les chiffres qu'on a globalement, puisqu'on a un haut commissaire des droits de l'homme au Conseil de l'Europe, donc on a quand même accès à certaines informations. Par exemple, pour vous donner, en 2009, il y avait 370 enfants mineurs emprisonnés en France, hein, incarcérés en France en détention l'année dernière. En Grande-Bretagne, sur les dernières années, on était à plus de 2000 enfants migrants incarcérés. La Grande-Bretagne vient de décider cette année qu'elle n'incarcérerait plus les mineurs. La France ne l'a pas encore décidé. Après, il y a les politiques de rapatriement, hein, des enfants. Hein, où beaucoup d'enfants roumains ont été rapatriés de France. Donc, on essaie de les suivre aujourd'hui dans leur retour également. Donc, c'est une nouvelle question, une question notamment où on travaille beaucoup ici à Poitiers sur l'accès à l'éducation, au droit à l'éducation et l'accès au droit à la santé des enfants non accompagnés. Puisque notre travail aujourd'hui, c'est de s'intéresser aux enfants qui ne sont pas dans les structures d'accueil. Donc, ces enfants qui sont dans la rue. Donc on travaille sur 5 pays, la France, l'Espagne, l'Italie, la Belgique et la Roumanie. Et on essaie de mieux comprendre ces dynamiques-là. Donc là, je vous ai mis un graphique sur les enfants migrants par pays, hein, l'évaluation. Pour la France, on n'a qu'un chiffre qui s'arrête à 2004, puisqu'on a plus de données, hein, on nous fournit plus de données véritablement sur ces données-là. 2000 enfants en 2004 étaient référencés par le ministère de la Justice dans le cadre du département sur la protection de l'enfance. pour aller vite, peut-être on laissera la question de l'asile, c'est une question aussi compliquée dans le débat, si vous voulez, on pourra revenir sur les chiffres, mais puisque le débat a été assez fortement mobilisé depuis la déclaration de M. Guéant, globalement, effectivement, la France, l'Allemagne et la Suède sont des grands pays d'asile, mais attention, hein, on joue sur les termes, la France, l'Allemagne et la Suède sont les grands pays où on demande l'asile. Mais en France, par exemple, si on prend les chiffres récents, hein, il faut différencier demande d'asile et reconnaissance du statut de réfugié. Et globalement, c'est seulement 27% des demandes d'asile en France qui sont validées aujourd'hui, appel compris. Hein. Si on prend les premières instances, c'est à peu près 17%. En gros, l'Europe des 27, c'est 260 000 demandes d'asile, majoritairement des Afghans, des Russes, des Serbes, des Irakiens et des Somaliens. Donc à l'échelle européenne, la mondialisation, c'est un système migratoire choisi, hein, puisqu'on peut reprendre le terme, et choisi dans le sens où voilà, on choisit avant tout d'essayer de revenir sur une politique de main-d'œuvre, hein, comme on l'a vu dans les années 70, c'est-à-dire qu'une politique de main-d'œuvre flexible, etc. Mais je pense que la question des travailleurs, et journaliers notamment, et travailleurs sans papier, abordera cette question. Donc là, on voyait, c'est un dessin... hongrois qui montre que voilà que l'Europe demande à ce qu'on lui amène sur un plateau des travailleurs étrangers. C'est un débat qui est très fort, notamment avec l'Allemagne aujourd'hui, hein, puisque vous savez que le 1er mai prochain, l'Allemagne verra dans ses accords européens verra la fin des quotas d'entrée des travailleurs des ex-pays communistes. Donc l'Allemagne a un grand débat sur la future déferlante de travailleurs polonais, etc., qui va arriver après le 1er mai, etc. Vous voyez. Mais l'idée, c'est ça. L'idée aussi, la mondialisation, c'est un système migratoire choisi, c'est-à-dire qu'on essaye de développer les activités de production en jouant sur les différentiels de frontières. Hein, la frontière Canada-Mexique-États-Unis est assez révélatrice. Hein, comment est-ce que le travail journalier étant beaucoup plus... le salaire horaire étant beaucoup plus élevé aux États-Unis, on a préféré développer des activités au Mexique aujourd'hui, toutes les questions des maquiladores, etc. Vous voyez bien... etc. En sachant que ça se complique beaucoup, notamment avec le jeu des mafias, notamment au Mexique, qui font des migrations, une rente également, en raquettant les migrants. Mais on n'a pas développé toutes ces questions-là. Ça amène la question des migrations irrégulières, la question sous-jacente. Ça amène aussi cette mise à distance des familles avec le regroupement familial. Là, c'est une photo de terrain à Tel Aviv. Hein, on voit ces chaînes de travailleurs asiatiques, hein, qui font la queue pour téléphoner à leur famille, hein, parce que le regroupement familial n'existera pas dans ces migrations-là. La migration irrégulière, évidemment, hein, on développe également toute la question de ces flux de migrants irréguliers qui viendraient dans les pays européens. Alors, par définition, la migration irrégulière n'est pas mesurable. On a des évaluations, etc. Mais ce que je tiens à souligner, c'est que si on le remet à l'échelle, si on revient sur une échelle de lecture des migrations irrégulières, à l'échelle de la France, par exemple, la France, c'est 80 millions de visiteurs par an. Hein, c'est 200 000 entrées par an. Et même si on considère qu'il y aurait un doublement de ces flux réguliers par des flux irréguliers, hein, ça veut dire, j'ai pris une donnée qui avait été donnée par François Héran, l'ancien directeur de l'INED, hein, ça veut dire que si on essaie de faire des proportions, il rappelait que sur un avion comportant 400 passagers qui débarquent en France, un seul est un nouvel immigrant. Et que si on décide qu'on est sceptique à l'égard des chiffres sur la migration irrégulière, les chiffres officiels, eh bien, si on décide de les doubler, l'estimation annuelle, eh bien, on n'ajoute qu'un second passager sur un avion qui serait un potentiel immigrant irrégulier, hein, à l'échelle de ces volumes-là. Donc on est dans des schémas où on a tendance à faire de l'immigration irrégulière une sorte de vague migratoire qui doublerait la migration. Mais à l'échelle d'un pays comme la France, la migration irrégulière est quelque chose qui reste très marginal, en sachant qu'il y a une confusion entre migration irrégulière et réalité migratoire. C'est-à-dire que bien souvent, les irréguliers sont des gens qui sont entrés régulièrement en France. Et c'est la dérégulation des droits d'installation ou de droits d'entrée, d'immigration, qui les met dans l'irrégularité. Donc en fait, ce n'est pas une décision volontaire. Les irréguliers ne sont pas des gens qui ne pensent qu'à venir passer irrégulièrement la frontière pour venir travailler en France. Voilà, je voulais juste vous montrer, pour conclure, les grands débats internationaux, et j'ai fait un peu à dessein de reprendre voilà, ce qui se dit. Hein. On retrouve un discours sur le discours sur la migration internationale aujourd'hui, c'est le même discours qu'on va retrouver à différentes échelles sur l'économie mondiale, etc. On fait des grandes conférences avec le Global Forum sur les migrations, qui s'appelle « Pour une meilleure gouvernance des migrations internationales ». J'en joue, le débat est intéressant, personne ne peut dire que discuter avec les acteurs politiques, les acteurs associatifs, etc., n'est pas productif, mais c'est quand même réinscrit dans un discours qui reste très formaté d'un point de vue intellectuel. Partenariat pour la migration et le développement humain, prospérité partagée, responsabilité partagée. Responsabilité, vous voyez bien ce que ça veut dire, c'est ça renvoie au partage du fardeau, comme le dit la Commission européenne, etc., etc. Bon, je vous laisse découvrir les titres. Ce que je veux dire en conclusion, c'est que la mondialisation, elle n'est pas que ça. Je veux dire que là, j'ai évacué, mais je pense que dans la communication suivante, on va aborder cette question du migrant comme acteur, hein, de son devenir, hein, des choix personnels. Ça, c'est un point qui retient la majorité de notre attention dans la recherche sur les migrations, hein, sur l'expérience, le savoir, etc., migratoire, le projet migratoire. Ce que j'ai simplement à dire, c'est que la migration est une source de solidarité, d'engagement et d'altérité également. On a tendance à l'oublier. Le migrant, je vous donne un exemple, le migrant est souvent, on oublie que le migrant est un passeur de changement social, hein, qu'il permet dans certaines sociétés de nous faire découvrir, d'éclater un petit peu, hein, les narratifs nationaux, pour jargonner un peu, hein, etc. Je vous donne un exemple ici, hein, de mon propre terrain de recherche. Comment est-ce que des groupes dans les sociétés d'accueil, là je vous prends un exemple, qui connaît les Falun Dafa, une sorte de secte, de groupe chinois mondialisé, hein, etc., un groupe qui est très inconnu dans les sociétés, et bien comment est-ce que des groupes qui sont non visibles dans les sociétés très marquées, comme je vous prends la société israélienne, hein, qui a une séparation, enfin une non-séparation entre le religieux et l'État, hein, entre la religion et l'État, comment est-ce qu'on va utiliser les migrants pour se rendre visible dans la société. Et là, vous voyez une scène assez... ça fait 3 ans que je filme ces trucs, que je la photographie, etc. C'est mon terrain de recherche. Comment est-ce qu'un jour, en étant là, au quotidien dans la rue, j'ai vu apparaître des Falun Dafa qui vont utiliser la présence des travailleurs chinois pour se rendre visible à la société israélienne. Vous voyez, ils sont venus méditer, chanter, devant des Chinois un peu éberlués, hein, qui sont là, mais qu'est-ce qu'ils font là, etc. On utilise aussi la migration, hein, pour se rendre visible dans la société, hein, pour montrer la diversité de la société. Donc là aussi un des points qu'on étudie peu. Un autre point, c'est aussi des formes d'engagement. Hein, ce sont ces groupes de femmes, hein, qui quotidiennement se mettent sur les lignes ferroviaires du Mexique pour donner à manger et à boire, hein, aux migrants qui essayent de rejoindre les États-Unis, hein, qui sont tous postés sur ces trains, hein, qui traversent l'Amérique du Sud. Et donc, elles sont là au quotidien, elles préparent à manger, elles jettent de la nourriture, hein, à ces migrants qui vont essayer de traverser pour les États-Unis. Et puis, c'est des formes de... Et je conclue, hein, voilà, je suis un petit peu dépassé de 25 minutes... C'est le problème, on n'est jamais... Alors, je vais aller sur cette question-là. C'est aussi un travail qu'on essaie de mettre en avant. C'est comment les migrants eux-mêmes activent un réseau d'échanges et des réseaux sociaux. Et là, je travaille dans un groupe qui s'appelle le eDiaspora Atlas. On essaie de voir comment les groupes migrants utilisent Internet pour communiquer entre eux et diffuser de l'information. Et là, vous voyez, on fait de la cartographie du web. Et là, vous avez la blogosphère marocaine, hein, sur tout l'ensemble des réseaux de blogs marocains qui discutent des questions de migration, qui discutent des questions de la vie en migration, etc. Et on essaye de comprendre un peu comment l'usage d'Internet permet également d'agréger des connaissances et des formes de mobilisation à l'échelle transnationale. Et toutes mes excuses pour avoir dépassé, mais... J'ai fait de mon mieux. Voilà. J'essaie de.
Alors, merci beaucoup. Ce que je propose, c'est que vous gardiez vos questions pour tout à l'heure et de donner tout de suite la parole à Sébastien Chauvin. On fera ensuite donc une séance de questions pour les deux communicants, de façon à être laisser tout le temps nécessaire à Sébastien et à ne pas. Courir sur la fin.
Merci. Pas tout de suite, on attend juste 30 secondes. Ça devrait arriver. C'est bon. Merci beaucoup. Alors, je vais essayer de faire une transition avec la question. Je vais essayer de faire une transition avec la question des migrations. Je vais vous présenter en tant que quatrième homme, par ailleurs, de cette invité à cette à raison d'agir. Je suis le quatrième homme depuis hier soir. J'espère que c'est un hasard aléatoire. Donc je vais vous présenter. Du matériau ethnographique résultant d'une enquête que j'ai réalisée à Chicago dans le cadre de mon travail de thèse et dans le cadre d'un livre qui est paru l'année dernière qui s'appelle « Les agences de la précarité » et qui mobilise à la fois des analyses sur la question du travail et de la précarité au travail et puis des analyses sur la question de l'immigration et notamment de l'illégalité. Alors je vais rentrer par la question du travail et puis je vais essayer de parler un petit peu du régime d'illégalité états-unien qui structure la vie des sans-papiers aux États-Unis et qui est en partie singulièrement différent de celui qui peut exister en France. Donc je vais insister un peu sur quelques contrastes. D'abord, je vous présente quelques photos concernant cette enquête. Donc j'ai réalisé mon enquête dans le travail journalier aux États-Unis. Quand on dit travail journalier aux États-Unis, on a des images, les images principales qui arrivent, notamment pour les Américains, c'est celle du travail journalier de rue informel. Hein. C'est-à-dire ce travail journalier, c'est des gens qui attendent très souvent des migrants, à Chicago notamment des migrants polonais, des migrants hispaniques, très souvent sans papier. Qui se font embaucher le matin très tôt sur des parkings près de stations-service, près de magasins de bricolage, soit par des petites entreprises du bâtiment et du jardinage urbain, soit par des particuliers qui veulent refaire leur cuisine ou leur tapisserie. C'est un domaine assez... ce sont des lieux d'embauche assez sauvages, c'est-à-dire que c'est assez difficile de se faire embaucher, il faut faire des négociations en espagnol dans celui où j'étais, c'était assez compliqué. J'ai fait 2 jours dans ces lieux de travail journalier, j'ai pas réussi à me faire embaucher, j'ai resté parmi les candidats au travail. Vous voyez là, il faut un certain nombre de compétences, ça ressemble un petit peu, il y a des systèmes de signes qui ressemblent à la Bourse de Chicago au début du XXe siècle. Donc voilà l'image qu'on a du travail journalier. Moi j'ai fait mon terrain de thèse dans l'autre pôle du travail journalier qui est le travail journalier d'agence formalisé. Institutionnalisé sur un mode juridique qui ressemble à l'intérim français, même s'il en a même s'il diffère dans certaines de ses propriétés. Par exemple, il n'est pas limité aux augmentations temporaires d'activité, hein, ce qui était le cas en France. C'est-à-dire que vous pouvez être intérimaire dans une même agence, dans une même usine pendant des années et des années. Ce n'est pas illégal. Alors, il y a aussi un certain nombre de différences par rapport à l'imaginaire de l'intérim en France. Ici, on en voit quelques-unes. La principale, c'est qu'il faut venir le matin très tôt attendre sur place les offres pendant des heures, parfois jusqu'à ce qu'arrive éventuellement ce qu'on appelle, dans le jargon du travail journalier, du day labor, on appelle ça un ticket. Donc quand un ticket ouvre, parfois il faut 20 personnes dans une usine de plastique, eh bien à ce moment-là, la personne qui... donc les travailleurs sont assis ici, et la personne qui décide, il y a une personne ici qui décide qui part sur quel ticket, et puis c'est là ce qu'on appelle la dispatcheuse ou le dispatcher. Là vous voyez, là on voit le comptoir de la dispatcheuse qui est extrêmement surélevé. Hein, quand on est notamment une femme mexicaine d'un certain âge, on doit vraiment, pour parler à la dispatcheuse, regarder en l'air et on n'est pas dans un comptoir de CAF, hein, on a vraiment peut-être, je sais pas, 50 cm de plus qu'un comptoir de CAF. Là, vous voyez aussi les petites séparations pour empêcher les journaliers de s'endormir le matin, parce que quand on arrive à 4h ou à 5h, parfois la lassitude peut se muer en assoupissement.
Alors, on arrive, donc selon les agences, c'est soit 4 heures, soit 5 heures, hein, pour un travail qui commence à 7 heures du matin ou à 7h30 dans les usines, en général de l'industrie légère, dans Chicago et autour de Chicago, dans les usines et les entrepôts. Je décris dans le livre, en fait, la manière dont l'incertitude est organisée au sein de ces salles de dispatch et la manière dont ce jeu d'incertitude contribue à maintenir sur place bien ce volant de travailleurs potentiels qui attendent gratuitement, donc leur attente n'est pas rémunérée, et qui ont parfois des amplitudes de travail qui peuvent aller jusqu'à 13 heures pour une journée de travail rémunérée de 8 heures. Hein. Quand on arrive, il faut par exemple arriver à 5h moins 5 devant l'agence avant qu'elle ouvre. Certains travailleurs qui ont peu de chances de se faire embaucher, notamment des noirs sans domicile, des hommes noirs sans domicile, je reviendrai là-dessus, peuvent arriver beaucoup plus tôt, par exemple à 3 heures du matin, poser leur sac et s'endormir, et puis quand ils se réveillent, ils sont dans la queue avant l'ouverture, et ils ont la première place, et puis derrière, il y a déjà des gens, il y a trois Mexicaines, et puis moi, par exemple, qui se trouvent derrière. Voilà pour celle-là. Un des aspects importants de ces agences, c'est qu'elles sont aussi des entreprises de transport, et qu'elles contribuent à transporter les salariés qui ont obtenu un ticket ou qui ont obtenu de se joindre au ticket existant, eh bien en direction des usines de la région qui se sont redéveloppées à Chicago à la suite, disons au début des années 80, vous avez une forte vague de désindustrialisation, des industries classiques qui périclitent. Et puis, à partir du début des années 90, vous avez une forme de réindustrialisation de la région, mais mineure, enfin limitée, et limitée à des industries légères, qui est située de plus en plus autour de Chicago et non plus dans la ville. Donc, vous avez des usines d'assemblage ou des entrepôts qui se situent parfois à 20, 30, 40 km ou 50 km de la région. Ce car-là, par exemple, nous amenait d'une agence le matin. Donc, vous imaginez, donc on arrive à 5h moins le quart, l'agence ouvre à 5h. À 5h30, les tickets arrivent, il y a un appel. Parfois, dans certaines agences, il y a une liste d'attente dans laquelle il faut s'inscrire en premier quand on arrive. Hein, théoriquement, on est pris dans l'ordre de la liste. Parfois, la dispatcheuse décide arbitrairement de qui part sur quel ticket. Et puis, on part. Et là, on a, par exemple, dans ce car, 1h30 de trajet pour aller jusqu'à l'usine de plastique dans laquelle une trentaine d'entre nous travaillaient certains matins. 1h30. Parce que, en fait, alors moi j'y suis retourné avec des mouvements sociaux après, ça nous a pris une demi-heure en voiture. En vérité, c'est parce qu'il faut s'arrêter dans un certain nombre d'autres petites usines pour déposer les petites équipes sur la route. Et on arrive vraiment à la fin dans la campagne de l'Illinois, hein, non plus ce qu'on appelle des suburbs, mais ce qu'on appelle maintenant des exurbs de la ville. Voilà un exemple extérieur d'une agence. Alors là, vous avez quelque chose d'assez... alors vous avez déjà en haut une sorte de contre... de terme à contre-emploi, donc pour valoriser, oui, la main-d'œuvre et puis l'aspect puissant de l'agence, enfin l'aspect de sa qualité d'une certaine manière. Hein, mais vous savez aussi que labor power, ça veut dire peut-être... ça veut dire force de travail. C'est la traduction de l'expression marxienne. Ça peut aussi vouloir dire pouvoir ouvrier. Hein. Labor aux États-Unis, ça désigne le mouvement syndical. Hein, Alors pourquoi j'ai dit labor? Parce que c'est très différent de jobs. Hein. Là, vous avez une référence à l'immédiateté et puis la proposition en direction des salariés potentiels d'un travail immédiat. C'est assez rare en vérité en termes de titre, de nom d'agence. Vous avez plutôt en général des agences de ce type-là, avec des noms de ce type-là, Labor Finders, qui montrent bien qu'on parle bien de jobs et pas de labor et pas de jobs. C'est-à-dire que Labor Finders propose à ses clients de leur procurer non pas des emplois, mais bien de la force de travail. Hein, donc ses clients, sont bien les entreprises clientes et non pas les demandeurs d'emploi. Voilà l'intérieur de cette... Non, pas l'intérieur, l'intérieur d'une autre, de Labor Power. Avec un autre type de dispositif, mais mais qui ressemble. Voilà une autre agence dans une banlieue de Chicago. Alors là, elle est assez différente. Là, vous avez des vraies chaises qui empêchent néanmoins également de s'assoupir. Et puis, vous avez une majorité de femmes à attendre. Et vous avez un dispositif aussi important ici, c'est la télévision. Alors, il n'y en a pas dans toutes les agences, où parfois elle est là, mais elle n'est pas allumée. Mais c'est un dispositif important, puisqu'elle contribue à la fois, c'est un instrument à la fois d'apaisement psychologique et de divertissement, mais c'est aussi un instrument de rétention économique, hein, puisque c'est une manière aussi, lorsque les offres n'arrivent pas, de faire patienter sur place les travailleurs. Alors moi, j'ai dans une agence que je montrerai plus tard, j'ai eu cette expérience assez surréaliste. C'était en février 2005. Je commençais le terrain d'observation participante à l'intérieur de ces agences. Et il y avait eu peu d'emplois dans les jours précédents. Et le dispatcher de cette agence le savait. Et alors tous les matins, normalement, on avait le journal télévisé en anglais local, et puis parfois aussi le journal en espagnol. Et là, il savait qu'il allait avoir peu d'emplois, mais il voulait quand même qu'on reste. Et donc, il avait amené son lecteur de DVD. Et il faisait nuit. On était tout emmitouflés dans des grosses doudounes. Et au bout de 5 minutes, j'ai réalisé qu'on était en train de regarder un remake de L'Exorciste. Pendant donc de 5h à 7h du matin. Et donc voilà, quand ça était terminé, il était 7h, un peu plus de 7h, les offres pouvaient encore arriver. Donc on a eu le droit à un deuxième DVD, c'était un épisode de la trilogie Bourne là, avec Matt Damon. Cette fois-ci, alors c'était en anglais sous-titré en espagnol ou l'inverse, enfin, il y a eu une inversion entre les deux. Et donc quand tout ça a été terminé, il était plus de 9h et ceux qui étaient restés en partie pour le film, en partie pour les emplois, et l'ambiguïté est précisément intégré à ce dispositif de rétention. Alors qu'est-ce que j'en ai tiré comme type de questionnement pour structurer un petit peu mon ethnographie? Eh bien, d'abord je me suis demandé pourquoi ces agences existaient dans un contexte un contexte législatif ou régulatoire du point de vue de l'emploi qui était très favorable aux entreprises et qui notamment leur permettait dans ce secteur de pouvoir licencier les salariés à tout moment sans préavis. Hein, la règle, la jurisprudence, la doctrine juridique qui régule les relations d'emploi, dite la doctrine de at-will employment ou employment at will, stipule depuis la fin du 19e siècle que la relation d'emploi peut être rompue à tout moment, unilatéralement, par l'une des deux parties, pour une bonne raison, une mauvaise raison ou pas de raison du tout. Alors, c'est dans les textes juridiques et ça a été maintenu, ça a été peu remis en cause dans certains secteurs, mais en fait dans les secteurs déqualifiés concernés par le travail journalier, c'était peu remis en cause. Et donc j'essaie de poser la question, pourquoi alors que cette dimension importante de source de recours à l'intérim, qui est la possibilité de pouvoir licencier des salariés à tout moment, eh bien, cette possibilité est déjà juridiquement intégrée dans le droit du travail général. Pourquoi donc il y a des agences là où elles existent? Alors j'ai essayé de montrer en fait d'analyser dans la structure et dans le fonctionnement de ces agences et notamment des salles de dispatch, comment plutôt que d'assurer disons cette première phase de la flexibilité qui est le fait de pouvoir licencier les salariés à tout moment ou se séparer de ses salariés, eh bien elle jouait disons elle remplissait d'une manière non juridique l'autre phase de la flexibilité qui est d'assurer la convocabilité permanente des salariés. Donc j'ai essayé de décrire les systèmes d'incertitude, les jeux sociaux internes à cette agence qui contribuaient, enfin à cette agence, aux agences, j'ai fait du terrain participant dans deux de ces agences, ce qui contribuait à maintenir ce volant, ce stock de main d'œuvre d'une certaine manière, sur place à coût réduit. Comme j'ai expliqué, une autre fonction de ces agences, c'est d'être des entreprises de transport, et ce n'est pas du tout négligeable pour certains. Quand vous êtes une femme mexicaine d'un certain âge qui n'a pas de voiture, qui parfois aussi ne connaît pas le nom même de son entreprise, on a eu des exemples de gens, de femmes qui venaient se plaindre de leurs conditions de travail dans un mouvement social et qui ne pouvaient pas donner le nom de leur entreprise, qui connaissaient uniquement le nom de leur chef de service, ou éventuellement qui connaissaient le nom de leur entreprise par leur secteur, hein, Los Cartones ou El Champú, mais qui n'étaient pas capables de nous diriger vers l'entreprise elle-même. Mais une troisième fonction importante, et c'est là qu'on va faire le lien avec l'immigration, une troisième fonction de ces agences, c'est aussi d'assumer le risque associé, le risque légal associé à l'emploi durable et répété de salariés non autorisés à travailler. C'est-à-dire que les entreprises qui ne souhaitent pas utiliser les salariés non autorisés tout en ne souhaitant pas commettre elles-mêmes d'illégalité, eh bien, sous-traitent l'illégalité à des agences en notamment leur payant cette marge sur chaque heure travaillée qu'on peut considérer comme en partie une police d'assurance. Puisque, de fait, aux États-Unis, alors ça peut être différent dans certains pays, encore que c'est compliqué du point de vue juridique, et ces entreprises ne sont pas elles-mêmes en infraction, puisque c'est l'agence qui commet pour elles l'infraction, parfois en faisant explicitement une déclaration, déclarant que tous les salariés sont autorisés à travailler, si bien que lorsque dans certaines entreprises il y a eu des raids des services de l'immigration qui ont arrêté un certain nombre de travailleurs parce qu'ils n'étaient pas autorisés, ces travailleurs étaient embauchés par l'agence de l'entreprise, enfin l'agence avec laquelle travaillait l'entreprise, et il y a des cas d'entreprises qui ont décidé de porter plainte contre leur agence pour les avoir trompés sur l'origine de ces salariés et qui, de toute façon, n'ont pas été embêtés en tant que tels, sinon pour leur propre réputation. Alors, ça m'amène à parler un petit peu du régime d'illégalité aux États-Unis. Vous savez, quand on parle de sans-papiers ou d'immigration ou de légalité, parfois on projette sur différents pays des réalités qui sont celles de son propre pays et qui sont parfois différentes en vérité. Ici, je vais essayer de donner quelques éléments pour expliquer en quoi être sans papier aux États-Unis, c'est une situation très différente d'être, par exemple, sans papier en France. C'est une différence d'abord quantitative, puisque vous avez 12 millions de sans-papiers aux États-Unis, c'est-à-dire vous avez, j'ai un trou de mémoire, je crois que c'est 5% de la population, en tout cas plus de 5% de la main-d'œuvre. Ça veut dire que dans certains secteurs économiques, vous avez 60%, dans l'agriculture, 70% des salariés qui sont sans papiers. Je ne dis pas immigrés, hein, je dis sans papiers. Pour certaines ethnicités ou pour certaines origines nationales comme les Mexicains, aujourd'hui, vous avez une majorité des sans papiers, des nouveaux arrivants mexicains aux États-Unis qui sont sans papiers, et une majorité également des sans papiers. Arrivant aux États-Unis qui sont mexicains. Donc ça crée des processus de racialisation assez importants, en tout cas intensifiés. Mais vous avez aussi une énorme... Alors vous avez aussi beaucoup moins de chances de vous faire expulser quand vous êtes aux États-Unis. Hein. J'ai calculé qu'au milieu des années 2000, sous Bush, vous aviez... si vous étiez sans papier aux États-Unis, vous aviez trois fois moins de chances de vous le faire expulser que si vous étiez sans papier en France. Hein. France est un pays extrêmement répressif à l'échelle internationale, parmi les pays occidentaux, sur ces questions. Mais c'est aussi un pays qui régularise beaucoup, donc il à la fois régularise beaucoup et expulse beaucoup, alors que les États-Unis expulsent beaucoup moins, mais régularisent aussi moins. Il y a peu de perspectives, à part des grandes vagues d'amnistie, mais qui sont actuellement bloquées. Bon, dans le livre, j'essaie d'expliquer, je raconte un petit peu comment j'ai réussi, pour un certain nombre de raisons, j'ai dû faire une fausse carte de sécurité sociale à partir de ma vraie, parce qu'elle avait une petite indication honteuse ici, qui m'aurait demandé une autorisation qui auraient nécessité de contacter les services d'immigration pour avoir l'autorisation. J'avais l'autorisation de travailler par l'Université de Chicago, mais en même temps, je me voyais mal arriver avec cette autorisation dans les agences pour me faire embaucher. Je pense que ça aurait cassé le dispositif de terrain. Et donc je raconte comment j'ai essayé de faire cette carte avec un ami sans papier dans le quartier, dans un quartier d'accueil mexicain, et comment en fait quand elle est arrivée, on a attendu 3 heures dans un McDonald's, et quand elle est arrivée la déception était extrême, puisque là on voit pas bien, mais enfin ça bave, c'est du 300 DPI, c'est fait avec du jet d'encre, on aurait pu le faire, enfin j'aurais pu le faire moi-même, ça coûtait $25. La vérité c'est qu'en fait les agences, aucune agence m'a posé de problème quand j'ai travaillé quand j'ai déposé ma candidature, et que l'idée, c'est quand même de pouvoir donner le change. Mais de toute façon, puisque l'agence elle-même, une de ses fonctions, c'est d'assumer cette illégalité, le principe, c'est qu'elle puisse dire, voilà, on a photocopié quelque chose. Voilà, je passe. Alors, une des dimensions donc de la vie illégale aux États-Unis, c'est que le système d'identification est moins institutionnalisé qu'en France, c'est-à-dire qu'on est moins tenu, on n'est pas tenu d'avoir une carte d'identité sur place quand on est dans la rue. Les contrôles d'identité policiers sont à peu près interdits, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous faire contrôler pour rien, à part éventuellement des cas extrêmement exceptionnels, beaucoup plus exceptionnels qu'en France. Éventuellement, maintenant, dans certains États, vous pouvez vous faire contrôler vos papiers, mais uniquement si vous avez été arrêté pour une autre raison. Par exemple, vous avez grillé un feu rouge, à ce moment-là, on peut vous vérifier vos papiers, mais pas si vous n'avez pas grillé de feu rouge. Alors, ça peut créer des effets des commissariats qui peuvent aller précisément dans les quartiers hispaniques pour scruter le moindre grillage de feu rouge pour pouvoir avoir le droit de vérifier les papiers. Mais vous voyez, on est quand même loin du niveau de contrôle de la population en termes de papier d'un pays comme la France, desquels on peut éventuellement dénoncer les contrôles abusifs, mais en général avec quand même l'idée que le contrôle lui-même n'est pas une prérogative indue de la puissance publique. Il ne doit pas être abusé, mais il n'est pas indu. C'est à peu près l'inverse aux États-Unis, où on pense que c'est vraiment dans des cas extrêmement exceptionnels qu'un contrôle peut se faire dans un espace public. Si vous avez un autre exemple, c'est tout cet ensemble d'institutions privées et publiques qui en fait acceptent, qui intègrent les sans-papiers, soit en leur donnant des permis de conduire, qui sont l'équivalent des cartes d'identité aux États-Unis, décernés État par État. Certains États leur donnent, parfois d'une couleur différente, dans un but de régulation aussi, y compris du trafic, y compris pour éviter les accidents de la route. Quand vous avez une si grande massification de l'immigration, il y a des contraintes de rendre, consistant à rendre la population gouvernable, amène à transcender en partie le fait que l'existence de ces populations peuvent être à étendre les dispositifs de régulation au-delà des frontières civiques par ailleurs définies par le gouvernement fédéral, définissant certaines catégories de population comme illégales. Ici, vous avez une banque, par exemple, qui explique que vous pouvez ouvrir un compte, qui explique explicitement, c'est une publicité à l'extérieur de la banque, dans un quartier hispanique, ici, vous pouvez ouvrir un compte sans visa, ou vous avez juste votre passeport mexicain, ce que n'importe quel sans-papier a, enfin pas n'importe quel, mais enfin les sans-papiers, ils ont évidemment beaucoup ont des passeports, ils peuvent même les faire renouveler à leur ambassade, en France comme aux Pays-Bas où j'habite. Vous pouvez aussi avoir votre matricule consulaire. Alors votre matricule consulaire, c'est une carte d'identité haute sécurité que le consulat du Mexique donne à ses résidents étrangers, essentiellement sans papier, avec laquelle il négocie avec un certain nombre d'institutions publiques, notamment des commissariats de police, des milliers de commissariats de police aux États-Unis, qui maintenant acceptent cette carte d'identité comme étant une pièce d'identité valide. Explicitement, toujours dans un but, alors parfois dans des buts humanitaires, mais souvent aussi dans des buts de régulation des populations locales, au-delà, encore une fois, des frontières définies au niveau de l'État fédéral. Je vais passer celle-là. Alors, c'est les agences que je décris. J'ai 5 minutes encore ? Un peu moins, d'accord. Les agences que je décris, elles sont... Euh, elles sont euh, elles, elles, leur main-d'œuvre est composée donc de manière croissante de sans-papiers et avec la fonction que j'ai décrite, mais aussi d'hommes noirs en provenance du ghetto désindustrialisé, des deux ghettos désindustrialisés de Chicago. Et notamment, c'est une des raisons pour lesquelles elles sont bilingues. Alors, pourquoi des hommes noirs ? Parce que des hommes noirs, souvent, ils sortent de prison et, pour beaucoup, ayant un casier judiciaire, ils se voient barrer, non pas exactement l'entrée dans certains secteurs, mais l'entrée par la grande porte. C'est-à-dire qu'ils doivent, officiellement, s'ils passent par les services des ressources humaines, ils doivent autoriser le contrôle de leur casier judiciaire. Donc, du coup, d'une certaine manière, ils ne peuvent pas atteindre ces emplois et ils arrivent quand même à rentrer dans certaines usines, mais en tant qu'intérimaire, parfois intérimaire de long terme, par l'intermédiaire de ces agences. Donc, ils jouent ce rôle d'écran qui n'est pas sans comparaison avec celui qu'ils jouent pour les sans-papiers. Ça sera important. Vous voyez ce genre d'agence bilingue, multiethnique, dans un Chicago qui normalement est extrêmement ségrégué sur le plan ethno-racial, sur le plan résidentiel, sur le plan des secteurs économiques dans lesquels travaillent notamment les Noirs américains et les Hispaniques. En vérité, ce qui se passe, c'est que les salariés, les agences s'installent dans les quartiers de résidence de leur main-d'œuvre, sauf qu'elles ne s'installent pas dans les ghettos noirs. Elles ne s'installent pas parce que d'abord elles pensent que c'est trop dangereux. Et en plus, elles pensent, il faut savoir que dans certains ghettos de Chicago, dans certaines rues, les boutiques ont des grilles. Hein, enfin, il faut que sonner pour rentrer dans les magasins, hein, sur la 79e rue notamment, que je connaissais mieux. Donc, c'est le côté dangereux, mais il y a aussi le stigmate de l'adresse. Hein. Donc, le stigmate de l'adresse qui pèse sur les salariés eux-mêmes quand ils ont une adresse dans les ghettos, eh bien, il pèse aussi sur une agence, puisque les entreprises la boudent. Je passe parce que j'ai plus le temps. Voilà une entreprise. Alors, voilà une agence dans laquelle j'ai travaillé. Une autre. Je vous montre quelques exemples pour, encore une fois, différencier de l'imaginaire de l'intérim en France les offres d'emploi qu'on trouve à l'entrée de ces entreprises. Alors, en voilà une qui dit à la fois, en gros, qui dit, voilà, tout le monde peut rentrer, quoi. Enfin, si vous êtes une femme, mais sinon, à la fois, c'est immédiatement, à toutes les tournées, et en même temps, on a l'impression que c'est... Et en même temps, c'est une annonce permanente, hein, puisque vous voyez, c'est pas au crayon. Voilà, typiquement des choses, même à Magenta, à Paris, on ne trouve pas des annonces aussi génériques. Hein. Alors, j'essaie de décrire dans le livre comment, à la fois ces annonces génériques et les types de qualités qu'elles testent et ne testent pas, ou qu'elles requièrent et ne requièrent pas, ainsi que le processus d'embauche lui-même, eh bien, avait des effets en termes de solidification de la déqualification des salariés. Donc la manière d'embaucher les salariés contribuait à durcir leur déqualification. Je vous les passe, puisqu'il n'y a pas beaucoup de temps. Je passe aussi celle-là. Je vais conclure. Je vous montre juste... Je passe ça. Je vais passer ça. Alors, la deuxième partie de mon travail qui n'est pas dans le livre que je présente, mais qui était dans la thèse, et c'est un travail sur les mouvements sociaux qui se mobilisent autour de ces journaliers. Là, je vais juste mentionner une limite de ces mouvements sociaux, ou du moins un de ces aspects, c'est que, disons, l'amélioration du sort des travailleurs journaliers, notamment sans papier, bute en partie sur le fait qu'ils sont sans papier et que dans certaines usines qui recourent à une main-d'œuvre sans papier et intérimaire sur le mode de l'assurance illégalité, c'est-à-dire on va utiliser pendant très longtemps des salariés en les maintenant intérimaires parce qu'on ne peut pas les embaucher directement pour éviter d'assumer le risque légal. Eh bien, on ne peut pas, pour améliorer leur situation, demander à ce qu'ils soient embauchés directement. Donc, on est obligé de faire des campagnes qui propose de les transvaser, de les transférer vers des bonnes agences par opposition à des mauvaises agences. Donc il faut, vous avez des groupes, des mouvements sociaux qui vont aller négocier des meilleures conditions de travail dans une bonne agence et qui après vont faire pression sur l'entreprise cliente pour qu'elle, entre guillemets, licencie sa mauvaise agence et transfère l'ensemble de sa main-d'œuvre dans la nouvelle agence. Bon, je ne peux pas décrire les problèmes rencontrés. Trois propositions pour conclure. Ce que j'ai tiré, y compris avec un certain nombre de collègues, de cette enquête sur les travails journaliers à Chicago, c'est un certain nombre de directions de recherche que je proposais aux sociologues, notamment du travail, sur la précarité. La première, bon, c'est la plus peut-être banale, hein, c'est de cerner dans l'analyse de la flexibilité au travail, de évidemment l'appréhender sur un mode relationnel, c'est-à-dire comme un rapport social, non pas comme une condition universelle attachée à un individu, que ce soit l'individu moderne ou néolibéral. Hein, il n'y a pas d'individu néolibéral, évidemment, il y a des rapports sociaux néolibéraux. Avec des injonctions différentes qui pèsent sur des groupes et des individus différents, et que la flexibilité elle-même, comme terme, est un terme intrinsèquement transitif, hein, que ça suppose qu'un groupe soit flexible, même la métaphore elle-même le porte, hein, ça suppose qu'un groupe soit flexible au service d'un autre. Donc ça, c'est important, ça va mieux en le disant, même si c'est évident. La deuxième, c'est que les enjeux à étudier dans la mobilisation au travail des salariés précaires se situent peut-être moins du côté de l'opposition entre la mobilité et la stabilité, hein, qui structure beaucoup de travaux sur la précarité, hein, la précarité étant associée à la mobilité, alors que c'est une association qui peut être remise en cause. Regardez, en France, une catégorie les plus mobiles, c'est celle des fonctionnaires, hein, qui a pourtant des emplois, un emploi à vie, ou quasiment un salaire à vie. On propose donc, avec un certain nombre de collègues, de situer l'opposition pertinente plutôt entre la mobilité libre et la mobilité contrainte, et donc à analyser les processus de contrôle de la mobilité plutôt que celle de la mise en mobilité ou de la mise en stabilité. Troisième et presque dernière proposition, c'est de regarder, de peut-être, alors vous savez qu'aujourd'hui les travaux notamment macroéconomiques sur la précarité se concentrent ou prennent comme un indicateur de la précarité l'augmentation supposée, réelle en partie, des contrats courts, hein, notamment l'émergence du CDD à partir des années 70. Comme j'ai essayé d'expliquer au début, aux États-Unis comme en France, quand on n'a pas signé de contrat, et le contrat par défaut, c'est un contrat à durée indéterminée. Aux États-Unis aussi, ce contrat à durée indéterminée, c'est le contrat que je vous ai décrit. C'est le contrat employment at will. C'est un contrat à durée très indéterminée, puisqu'on ne sait pas quand ça finit, on n'a aucune garantie. Et il peut être interrompu à tout moment. Tout ça pour dire que, évidemment, ce qui protège, ce qui rend le contrat, le CDI, en partie, ou ce qui le rendait jusqu'à récemment plus protecteur que le CDD, n'est pas sa durée indéterminée, mais bien sûr toutes les protections qu'il a acquises au cours de la deuxième moitié du XXe siècle. Et on peut imaginer de manière assez concrète aujourd'hui plutôt que de multiplier des CDD qui comportent un certain nombre de garanties en termes de primes de précarité, en termes de difficultés à rompre pendant la durée, une précarisation du contrat de travail qui passe non plus par la multiplication des CDD, mais par le vidage de contenu du CDI qui maintiendrait sa durée indéterminée, mais qui se glisserait subrepticement vers l'indétermination précaire du contrat at will aux États-Unis, qui est également un contrat à durée indéterminée. Dernière proposition à la suite de cette enquête, c'est une, une, c'est de cerner les rapports sociaux qui sont observables dans sur le marché du travail précaire, non plus en termes d'intermittence, non plus en termes de mobilité, mais en termes d'inemployabilité. Alors, je vais essayer de le décrire. Alors, non pas inemployabilité dans un sens extrêmement descriptif, c'est-à-dire que si on voulait donner un sens au mot précariat, ce serait une couche de salariés ou de travailleurs, non pas qu'on n'emploie pas, mais une couche de salariés qui, inemployabilisés par un certain nombre de processus, que ce soit le système d'immigration, le système carcéral, mais parfois aussi le système d'éducation, inemployabilisés, qu'on emploie quand même. Donc le précariat ou la précarité, c'est une situation qui correspond au fait d'être employé quand même, avec tout un ensemble de rapports de faveur qui émergent dans ces situations de travail, où un certain nombre de droits qui peuvent être associés au salariat classique peuvent être donnés néanmoins, mais sous le mode de faveur, où on voit que l'inemployabilisation est issue d'un certain nombre de processus publics ou de certain nombre de politiques publiques qui peuvent être relativement fortuites par ailleurs, rentre en binôme avec une classe d'employeurs qui emploie les salariés quand même. Et on voit comment ce couple entre processus d'inemployabilisation et employeur qui emploie quand même, eh bien, contribue à la rétention à un effet de rétention sur les salariés. Et c'est la dernière proposition que je soumets à jugement ici, c'est d'inclure dans le concept de précarité, ou dans la théorie de la précarité, ou dans les modèles de la précarité, les institutions, non pas seulement le marché du travail précaire, mais toutes les institutions qui contribuent à la rétention des travailleurs précaires sur ce marché, que ce soit des politiques, que ce soit des dispositifs qui paraissent répressifs ou des dispositifs qui paraissent incitatifs ou humanitaires. Voilà, merci.
Alors, il nous reste peu de temps, mais du coup, sans transition, je vais passer la parole à la salle pour les questions que vous pourriez vouloir poser à l'un ou l'autre de nos intervenants. Est-ce qu'il y a...
En fait, j'ai juste une petite question sur la première intervention, c'est par rapport au nombre d'incarcérés mineurs en France. Vous avez parlé de 379, je crois, en 2009, et qu'il n'y avait pas de chiffre à partir de 2004. Alors, c'était 2000 environ 2000 en 2004. Donc là, je n'ai pas trop suivi, en fait. Enfin, voilà, c'est un point qui m'intéresse. Merci.
Oui, j'ai une question aussi pour William. J'ai, par rapport à la question des remises et du développement, je me demandais en fait si on pouvait vraiment mettre sur un même plan justement ces remises et puis les investissements liés au développement qui est un développement beaucoup plus concerté, ciblé sur des actions précises, sur des types de développement, etc. Enfin, moi, j'ai eu l'expérience du Pendjab, et notamment une petite région du Pendjab, le Doaba, qui est une région qui exporte énormément de migrants dans le monde. Et là-bas, j'ai pu constater effectivement l'impact de ce que vous appelez ces remises sur même le paysage local, avec notamment énormément de construction d'arches, alors des migrants notamment d'Angleterre, du Canada, etc. Qui investissent effectivement beaucoup d'argent, mais davantage dans des choses très symboliques, du type des monuments à l'entrée du village, une arche à l'entrée de la route du village, beaucoup d'investissements dans des sectes aussi, qui sont liés à des castes. Et puis effectivement, d'investissements dans des choses moins symboliques, qui sont du type éducation privée, hôpitaux privés, etc., mais qui sont quand même très liés à des investissements de gens, de personnes, des communautés immigrées qui ont réussi, qui ont gagné de l'argent et qui préparent un peu leur retour et leur retraite, un retour au moment de la retraite et un retour un peu de notable qui, donc, en devenant de généreux bienfaiteurs de la communauté, etc. Et beaucoup d'investissements dans des sectes aussi. Alors ça donne des choses qui sont aussi critiquées par la population locale, du type... on voit pousser comme ça au milieu des champs, en pleine campagne Punjabi, un bâtiment pour abriter une secte, une nouvelle secte d'intouchables, donc qui s'affirme comme ça, qui affirme son prestige dans la société locale, mais ça donne des choses un peu ahurissantes, du type d'énormes structures très luxueuses avec... complètement fully air-conditioned, l'air conditionné, des bâtiments avec une architecture qui est entre l'architecture religieuse et des bâtiments qui ont un peu type corporate, avec des portes en verre automatique, etc. Enfin, c'est des trucs un peu délirants. Et une forme de contrôle aussi dans ces institutions, sur la population locale, sur ces castes, et l'affirmation d'un véritable pouvoir dans la société locale, avec par exemple l'obligation pour les villageois de cette caste de venir, enfin une obligation qui est basée sur le consentement, mais qui conditionne aussi l'accès après à des services sociaux, etc., notamment l'utilisation de ces hôpitaux, l'utilisation de ces écoles privées, l'accès à ces à cette bienfaisance et conditionné par exemple le fait de venir donner une journée de travail gratuite par semaine, etc. Donc il y a des formes aussi de contrôle social sur la population. Donc je me demandais si on pouvait vraiment, s'il n'y avait pas une spécificité quand même de ces remises. Et puis bon, je pense que c'est des remises qui vont aussi beaucoup aux familles, dans des cadeaux, dans des... Moi je voyais beaucoup de téléphones portables dernier cri, enfin des gens qui apparemment étaient aussi des travailleurs journaliers, etc., qui avaient le dernier iPhone, etc., envoyé par le cousin qui était à Birmingham. Enfin, voilà, donc je me demandais si on pouvait vraiment mettre sur le même plan d'argent de développement ciblé et puis ces remises. Merci.
Moi, j'avais le même genre de questions, mais beaucoup moins appuyées sur de la culture que Nicolas Jaoul. Mais c'était assez simple sur les remises. C'était, est-ce qu'on sait des choses sur l'impact en termes de structure sociale, c'est-à-dire les émigrants ne sont pas situés n'importe où dans la structure du pays d'origine, mais qu'en est-il de la retombée sur la structure sociale de cette remise? Est-ce que ça renforce des formes de domination, ou est-ce que ça permet à des groupes de construire du capital collectif, familial, voilà. Donc c'est sans doute très différent selon les pays, à moins qu'il y ait des lois générales, ce serait toujours intéressant. Et puis, j'arrive pas à me relire, Sébastien Chauvin, oui, par rapport aux luttes dans les agences, là, le point que tu as évoqué à la fin, y a-t-il... Enfin, vu de loin, je n'ai pas le sentiment que ce soit vraiment la tradition du syndicalisme américain, mais moi, je n'en connais pas les contours spécifiques. Donc, du même coup, je me demandais, est-ce qu'il y a eu des tentatives à certaines époques, à certains endroits, de faire en sorte, sur ces agences, de bonnes agences, etc., de se référer à des traditions type Bourse du Travail en France ou ce genre de choses, d'autogestion de ce type d'institution?
Oui, moi j'ai une question pour Sébastien. Sur le, il me semble que la multiplication des travaux sur l'inemployabilité, ça me semble intéressant parce que bon, tu montres que cela c'est des étrangers, effectivement des anciens détenus. On peut envisager d'élargir la catégorie aussi. Par exemple, en France, on pense peut-être à des catégories comme les jeunes, souvent qui sont présentés, enfin les seniors, etc. Qui pose problème d'emploi, etc. Et donc l'inemployabilité est un petit peu construite comme un problème social qui pose problème. Alors il faudrait répondre à travers des politiques publiques d'activation. On crée des emplois aidés, des formats typiques d'emploi, etc. Ou alors on fait de l'intérim. Et je me demandais si finalement cette notion d'inemployabilité, elle n'avait pas aussi une justification un petit peu dissimulé, qui est effectivement de faire pression sur les salaires et sur le droit du travail. En fait, derrière un problème, il y a des gens qui s'y retrouvent, quoi.
Oui, donc juste pour compléter un peu les deux questions sur disons, le débat aide au développement versus remise. Donc c'est vrai qu'il y a effectivement, sur l'aide au développement, il y a eu quand même pas mal de travaux, de débats et de choses là-dessus. Donc est-ce que ça confine les pays du tiers-monde dans l'assistanat, est-ce que ça tombe directement dans la poche des élites, etc., etc. Il y en a eu quand même beaucoup moins sur effectivement les remises et leur effet sur le développement. Donc ce serait ça la question. Est-ce qu'on sait un peu plus précisément, alors c'est les différences selon les zones géographiques, quel est l'effet sur le développement de ces remises? Et peut-être juste rapidement pour compléter un peu les témoignages déjà donnés, plus que les témoignages, les travaux. C'est vrai qu'on voit par exemple au sud du Maroc pas mal d'endroits où on a effectivement, donc un peu dans la même optique sur la préparation de la retraite, des villages où une grande partie des maisons les plus agréables sont vides, parce qu'elles sont prévues pour le retour des futurs retraités émigrés. Donc là, c'est un petit peu l'aspect, préparation de la retraite, et puis, impact sur le développement peut-être un peu plus faible. Et puis un peu plus au sud, donc dans des régions comme le Mali ou la région de Kayes en particulier, on a beaucoup de transferts et une économie locale qui, je crois que le PIB de la région de Kayes doit avoir une part non négligeable qui repose sur les transferts unilatéraux. Et là, assez peu d'investissements de prestige, puisque donc le niveau de vie est assez bas, et donc peut-être un impact un peu plus fort sur l'économie locale, et donc sur des choses qui sont un peu plus directement, entraînées des conséquences économiques. Voilà, donc pour compléter les.
Oui, c'était une question pour Sébastien. Tu as bien montré le travail au jour le jour, journalier, la grande incertitude des travailleurs, la grande précarité. Mais est-ce que tu as, peut-être pour une note un peu moins sombre, est-ce que tu as pu observer aussi ce qu'a observé par exemple ton collègue Nicolas Jounin, comme il a pu le faire dans le secteur des emplois du BTP, des formes de création de stabilité, en fait, des formes de stabilité, des formes de fidélisation des travailleurs journaliers, enfin, ou des travailleurs intérimaires ici en France, comme l'a fait Nicolas Jounin. Voilà, donc des formes nouvelles de régulation qui, du coup, sur cette question du précariat et de la précarité, du coup, qui remettent en cause, en fait, cette dichotomie entre précarité et mobilité, instabilité, etc.
Oui, j'aurais voulu demander une précision à William Berthomière. Donc, c'était par rapport au fait que vous employez de manière alternée mobilité et migration, alors qu'il me semblait que c'était deux corpus très différenciés qui ne se rejoignaient pas trop. Donc, pour quelles raisons est-ce que vous employez les deux? Et peut-être, du coup, revenir sur les différences qu'il y a. On a bien compris que ce n'était pas la question de dépasser la frontière ou pas qui allait différencier une migration ou une mobilité. Est-ce que c'est une question de temps, la permanence après le déplacement sur place, ou est-ce qu'il y a des choses qui différencient effectivement ces deux statuts?
Bon, alors s'il n'y a pas d'autres questions, on va demander à nos intervenants de répondre.
Alors je vais essayer de répondre assez vite sur les différentes questions. Par exemple, pour la première question, toutes mes excuses, c'est simplement peut-être la rapidité de mon exposé qui fait que la première donnée en fait était sur le nombre d'incarcérations en 2009, mais la deuxième donnée, 2004, c'était le nombre d'enfants migrants référencés. Donc là, ils n'étaient pas incarcérés, c'est le nombre d'enfants migrants référencés par les données françaises. Par rapport à la question migration-développement, c'est une question qui est qui développe des milliers de pages de travaux. Ça ramène effectivement à tout ce que vous avez dit sur d'abord la comparaison. Alors, tout à fait raison, hein, comparaison n'est pas raison. Il est évident que là, c'est des comparaisons d'échelle. L'idée, c'est de dire, voilà, c'est des masses financières qui vont vers les pays en développement. Donc, on donne simplement les niveaux d'échelle, effectivement. Il faudrait suivre la chaîne, quelle est la productivité ou les richesses produites par tel type d'investissement, etc., etc. Donc, l'idée, c'est juste pour vous montrer les niveaux, évidemment. Enfin, j'insisterai quand même, vous montrer les niveaux, effectivement. Est-ce que les IDE, les investissements directs étrangers peuvent être comparés ou pas? Bon, là, on parle en termes de masse. Il est vrai que les IDE sont peut-être plus structurants en termes de secteur, d'activité, d'emploi, etc. etc. Mais par exemple, sur au moins une comparaison qu'on peut penser juste, c'est le rapport aide au développement des pays du Nord et puis manne financière produite par les migrants eux-mêmes. Là, on peut penser que l'aide au développement reste quand même, en tout cas, très, très faible par rapport à ce qu'on pourrait attendre des engagements, notamment sur la part de la du PIB des pays riches, etc. Enfin, on est en dessous, quoi. Donc là, on peut comparer. Après, sur les IDE, ça devient plus compliqué. Mais je vous garantis que je ne suis pas un spécialiste de ces questions économiques, loin de là. Alors, en tout cas, ça nous ramène à la question sur l'individuel et le collectif, quoi. C'est-à-dire que si on prend les remises, comment est-ce que se fait cette ligne de démarcation, etc. Alors, les deux exemples, ça dépend des lieux, des sociétés d'origine. Il est vrai que la société indienne va peut-être réinscrire, effectivement, dans une démarche, disons, beaucoup plus communautaire. Vous avez mentionné le système des castes qui serait sous-jacent et qui recapterait les fonds. Ça, c'est une possibilité. La question de CAI nous amène à... est-ce que CAI, c'est plus de l'ordre du collectif? Là, on voit, hein, c'est aussi des points... c'est aussi dépasser un peu nos a priori, c'est-à-dire que circuler dans ces lieux, évidemment, la maison, les maisons luxueuses qui vont dénoter par rapport à l'habitat classique, etc., on les remarque plus facilement, mais on va moins remarquer peut-être les deux, trois générateurs électriques qui sont dans un coin, parce que eux, c'est de l'ordre du collectif, évidemment, mais c'est moins visible, et donc du coup, on va plus vite aller chercher... on est marqué par ce décalage. Alors, le décalage existe. On voit bien qu'il y a des disparités liées aux remises, c'est-à-dire que les clivages sociaux, etc., au sein des sociétés peuvent être renforcés par les remises. C'est-à-dire que des groupes captant des fonds de l'extérieur vont continuer à accroître leur distanciation par rapport aux plus démunis de la société d'origine, etc. Ou alors, à l'inverse, des groupes qui vont pouvoir partir en migration vont capter une manne financière qui va rediscuter un peu les pouvoirs locaux, etc. Et donc, réinscrire différemment les différents échanges entre groupes qui peuvent avoir une activité au sein des villages, l'activité politique, sociale au sein des villages, etc. CAI, c'est un très bon exemple. Mais on parle de CAI maintenant ou on parle de CAI il y a 40 ans? Enfin, c'est-à-dire que là, il faut se réinscrire dans le temps long. C'est-à-dire qu'on a une histoire migratoire très longue à CAI. Donc, du coup, est-ce qu'il y a des modifications au fil du temps, des capacités d'investissement et des façons de raisonner l'investissement différemment? Le cas du Maroc, exactement. Encore une autre forme, c'est ce qu'on appelle le processus de bancarisation des remises. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des États qui vont essayer de drainer via leur système bancaire les fonds des migrants, et donc qui vont les bancariser et qui vont de fait essayer de faire dépasser l'échelle individuelle. Le Mexique, la politique très pesos por uno, c'est-à-dire que si vous investissez un peso au Mexique, l'État pouvait en mettre trois derrière. Donc du coup, etc. Et donc on aboutit à ces systèmes-là. Et puis effectivement, les remises modifient le paysage social, mais le paysage des villages au sens physique du terme. On voit en Anatolie, on a vu émerger des ronds-points partout parce que les migrants vivant en Europe ont voulu faire des ronds-points dans leur village. Enfin voilà, des choses comme ça, évidemment. Tout ça, c'est des formes de transfert, etc., qui sont intéressantes. Si on va à une échelle plus globale et en termes de impact globaux, si on parle plus massivement impact globaux des remises, on sait que globalement, notamment en Afrique de l'Ouest, etc., on est assuré que des familles qui ont des migrants dans leur famille ont plus de chances de scolariser leurs enfants,
au Pakistan, les derniers articles que j'ai pu lire sur la question des remises montrent très clairement que la présence de remises amène plus facilement la scolarisation des filles. On montre très clairement qu'une famille, reçoit des remises, une femme a plus de chances d'avoir une grossesse sans difficulté, d'avoir des enfants. On a même des résultats sur les études épidémiologiques, etc., qui nous montrent qu'une femme qui vient d'une famille où elle est remise a effectivement des enfants qui sont beaucoup plus lourds, enfin beaucoup plus gros à la naissance, etc. On a plein d'indicateurs là-dessus. C'est sûr que les remises ont un impact. À une échelle plus globale, on considère que 10% d'évolution, d'augmentation du volume des remises, c'est 1% de richesse en plus par habitant. On a beaucoup d'indicateurs, notamment sur la scolarisation des filles, c'est très net. Alors vous allez me dire, les filles doivent attendre les remises. S'il n'y a pas de remise, les filles ne vont pas à l'école. Enfin, vous voyez que ça réinscrit quand même. Ça ne remet pas en cause des modèles. D'avoir des migrants à l'extérieur, etc. Il y a aussi la question des femmes migrantes qui modifie beaucoup. C'est-à-dire que le fait que maintenant, de certaine manière, on a tendance à dire que le migrant aujourd'hui est une femme. Puisque il y a aussi les États qui préfèrent avoir des femmes que des hommes migrants, etc. Hein. Pas les moins aisés pas les plus pauvres non plus. Donc du coup... Oui. Donc du coup, effectivement, ça a un biais. Non, je crois que l'idée intéressante, c'est quand même qu'au-delà de tout ça, on peut discuter effectivement à une sorte de, on pourrait dire, d'égoïsme du migrant, etc. On peut, comme il y aurait un égoïsme de beaucoup d'individualité quoi, qui se mettra en place. Mais malgré tout, il y a quand même un transfert vers le collectif. C'est-à-dire que ça profite quand même au collectif dans beaucoup de lieux. Et effectivement, c'est positif. Donc je m'arrête là-dessus parce que c'est vrai qu'on peut en parler longtemps. Alors mobilité, migration, il y a un effet de langage pour ne pas utiliser trop souvent migration. La mobilité est beaucoup plus englobante en termes de notions et du coup on décline les échelles de la mobilité, s'il y a des échelles de la mobilité, la migration internationale est une échelle de la mobilité. Mais après c'est des articulations qu'on cherche à... Le terme de mobilité nous donne plus facilement la question d'articuler les échelles de mouvement, de circulation, etc. Notamment, la migration internationale vous amène à avoir des formes de mobilité quotidienne ou résidentielle différentes, etc. La notion de ghetto, on articule migration internationale, on a tendance à dire quartier d'immigration, un peu ghettoisation des migrants, mais tout ça peut être pondéré sur les formes de mobilité quotidienne. C'est-à-dire que le ghetto peut être repensé sur... Est-ce qu'il y a un accès à une mobilité quotidienne qui vous fait sortir du lieu, qui vous met dans d'autres pratiques de circulation, dans les espaces urbains, etc. Donc vous voyez que... disons que la mobilité est beaucoup plus englobante. Et puis après, il y a eu l'effet des recherches sociologiques anglo-saxonnes comme John Hurry qui ont vraiment fait une sociologie de la mobilité et donc du coup inclus l'immigration dedans. Donc du coup, de nous-mêmes, on circule sur les deux termes, quoi. Voilà, je vais arrêter comme ça. Je pense que j'ai rien oublié.
Pour répondre d'abord sur la question des bourses du travail et du syndicalisme de ce qu'on appelle les hiring halls aux États-Unis, donc ce système de syndical de bourses du travail autogérées dans certains secteurs. Où il y a beaucoup de travailleurs indépendants. En fait, il y a eu des tentatives syndicales pour faire ça. Ça a rencontré un certain nombre de problèmes, parfois des difficultés à être en concurrence avec des entreprises commerciales, avec des agences commerciales, puisqu'il ne peut pas y avoir de négociation d'exclusivité au sein de cette agence, par exemple, puisque ce n'est pas un syndicat, au sein du secteur. Maintenant, comme avec le syndicalisme, on peut avoir cette opposition entre les agences, disons, parasyndicales d'un côté et puis des agences commerciales de l'autre, il y avait aussi à l'époque, à l'apogée du syndicalisme, des oppositions entre des syndicats autogérés, des vrais syndicats qui essayaient de fonder des hiring halls autogérés, et puis le même type de hiring halls contrôlés par le crime organisé. Et en fait, il se trouve qu'un certain nombre de propriétés, de fonctions de ces agences, qui sont en fait des institutions de fourniture et de discipline de travailleurs, eh bien, font écho aux fonctions que jouaient notamment ces syndicats corrompus ou entrepreneurs des années, à partir des années 20-30 jusqu'aux années 70. Alors j'avais d'abord travaillé sur cette parenté structurelle et ce remplacement d'une certaine manière d'un intermédiaire par un autre, même s'ils ne sont pas toujours dans le même secteur, notamment les secteurs en question n'existaient pas avant. Mais en fait j'ai réalisé en travaillant historiquement que en fait les premières grandes parce que j'avais découvert qu'en fait certains syndicats mafieux étaient liés à des agences existantes aujourd'hui à Chicago, notamment en lien avec la machine politique de l'ancien maire de Chicago. Et donc je suis remonté et en fait j'ai découvert que non, c'est pas seulement que le crime organisé avait investi les agences a posteriori, c'est qu'en fait certaines des grandes agences qui dans les années 60, 50 et 60 ont été les premières grandes agences de travail journalier, donc un peu à l'écart de Manpower et des agences de l'intérim un peu plus nobles, bien ces agences étaient en fait fondées par des groupes d'agents qui étaient déjà spécialisés dans la fourniture et la discipline des travailleurs et qui en fait avaient déjà investi par ailleurs avant les syndicats mafieux. Et aujourd'hui, vous avez par exemple des cas documentés où la femme a l'agence de travail journalier et le mari a le syndicat mafieux dans la même entreprise. Vous avez un certain nombre de cas comme ça. Donc cette opposition, on la retrouve à différentes périodes et ça montre aussi que, le caractère commercial ou non d'une entreprise ou d'une institution, d'un intermédiaire de marché du travail est parfois moins important que qui le contrôle pour comprendre sa fonction sur le marché du travail. Alors l'inemployabilité, alors effectivement, c'est compliqué. Là, je l'ai utilisé de manière provocatrice, mais c'est évidemment pas pour reprendre un terme de politique publique, mainstream. Mais enfin, si c'est pour le reprendre, c'est pour le rendre subversif. Mais donc bien d'analyser les processus qui produisent cet étiquetage, mais les analyser en commun. Alors ces processus, donc, qui peuvent effectivement, pour les jeunes en français, très très connus, hein, puisque le mythe du chômage, enfin, ce que Bernard Friot appelle le mythe du chômage des jeunes, qui l'intègre dans le dispositif de précarisation des jeunes. Donc, cette fausse idée qu'il y a des taux de chômage supérieurs chez les jeunes, alors qu'en fait, évidemment, on prend que le taux de chômage des jeunes sur le marché du travail et qui sont une part bien spécifique de la population jeune. Alors qu'en fait, si on toute chose égale par ailleurs, le taux de chômage chez les jeunes est inférieur. Je crois qu'il est inférieur si on prend par rapport comparé à qualification égale. Il dit que c'est égal. Pour les vieux, c'est notre affaire, mais les médecins étrangers, encore une fois, m'ont montré que quand on pense la précarité dans cette relation de cette construction d'inemployabilité et de emploi comme faveur, on n'est pas obligé d'être dans la pauvreté. On peut aussi à tous les étages, y compris à l'université, être dans une relation. Être embauché, donc le médecin embauché comme une infirmière, étant donné qu'il n'est pas employé, il n'est pas employable comme médecin, etc. Et donc il est embauché quand même, mais avec une relation de dépendance accrue. Alors sur les différentes carrières à l'intérieur du travail journalier, alors j'ai dû sauter cette dimension très importante là que j'ai pas commenté les slides qui auraient pu l'illustrer. Oui, c'est ce qu'on a appelé, alors d'une manière générale, c'est ce qu'on avait appelé avec Nicolas Jounin des carrières informelles à l'intérieur alors le terme informel n'est pas toujours réel, parce que par exemple en France, on en parlera peut-être cet après-midi, quand un même salarié sans papier passe à différents stades de carrière dans une même entreprise, dans un même restaurant, parfois la carrière n'est pas du tout informelle, elle est tout à fait formelle, il n'y a à peu près rien d'informel dans cette carrière. Par contre, dans l'intérim, on peut trouver des formes de carrière informelle au sens où, par exemple, j'avais un chef d'équipe qui était sans papier et qui était passé en 5 ans par plusieurs agences, mais il était resté dans la même usine. Donc, il était, donc là, on avait, il était passé, son salaire avait augmenté, il était devenu chef d'équipe, et il était resté intérimaire parce qu'il était sans papier, mais par ailleurs, il pouvait diriger, commander à des personnes, notamment des Portoricains, qui étaient légaux et qui étaient devenus permanents, qui avaient parfois moins d'ancienneté que lui, concrète, et qui avaient des salaires inférieurs, mais qui étaient permanents. Donc, vous voyez, donc il avait connu cette carrière... qu'on a appelé carrière informelle, augmentation de l'ancienneté, tout ça comme sous mode de faveur, hein, puisque officiellement il est intérimaire et officiellement il avait changé 5 fois d'agence. Hein, donc officiellement, si on voulait calculer, est-ce que c'est quelqu'un de précaire en termes dans la définition en termes d'intermittent, c'est quelqu'un d'assez intermittent puisqu'il y a 5 ans, il a changé 5 fois d'employeur. Enfin, en tout cas, en fait, c'est 2 mêmes agences qui se repassaient les contrats, qui se volaient les contrats année après année. Mais en fait, il était resté dans la même usine. Augmentation de l'ancienneté, y compris vacances, y compris même vacances à l'extérieur des États-Unis avec un passeport. Il avait emprunté le passeport d'un salarié hispanique légal qui lui ressemblait. Et donc, il a pu partir, je ne sais plus dans quelle île, pendant quelques semaines. C'était avant le 11 septembre, donc je pense que c'est plus difficile après. Donc c'est très important. Par contre, une chose, c'est que dans la relation d'intérim, il n'y a pas qu'un employeur, il y en a plusieurs. Donc la question de la fidélisation pose aussi la question de la compétition, de la concurrence des favoritismes et de la concurrence entre les différents employeurs pour savoir avec qui va s'établir la relation de fidélité et avec qui ça va s'établir la relation éventuellement de clientélisme avec le personnel de l'agence ou plutôt de paternalisme avec le personnel de l'usine. Et il y a une forme de, aux États-Unis, à Chicago, dans mon cas, il y a une forme de racialisation qui fait que les noirs, en fait, paradoxalement, ceux qui sont les plus employables ne vont pas avoir une relation très forte avec l'employable, entre guillemets. Hein. Enfin, je préfère pas utiliser le terme ici. En tout cas, les sans-papiers mexicains vont être davantage gardés par les entreprises finales, par les employeurs finaux. Donc ils vont avoir des relations beaucoup plus intenses avec le personnel de l'usine qu'avec le personnel de l'agence. C'est eux qui vont devenir ce qu'on appelle des permatemps aux États-Unis. Donc c'est des intérimaires permanents, mais pas au sens américain, français, hein, d'intérimaires qui reste dans une même agence et qu'on envoie dans différentes usines, hein, mais quelqu'un qui reste dans une même usine et dans une même agence pendant des années, qui est autorisé, quelque chose qui est autorisé aux États-Unis. Ça, c'est plutôt les sans-papiers, alors que les noirs, et notamment les hommes noirs qui fréquentent les agences, eux vont être moins gardés par les usines. Du coup, ils vont développer leur stratégie de fidélisation ou de loyauté avec le personnel de l'agence et notamment le dispatcher que j'ai décrit. Donc, vous avez ce phénomène-là. Voilà.
Merci beaucoup. On va clôturer cette séance pour pouvoir entamer la seconde sans trop de retard. En tout cas, je remercie chaudement William Bertomier et Sébastien Chauvin pour leur intervention passionnante.
Merci à vous.